Ça va en faire tout à fait spécial. On parle de choses qui se sont déroulées. Hors de la connaissance de Moshe Rabbeinu, hors de la connaissance d'aucun juif, aucun juif qui savait ce qui se jouait. C'est quelque chose, en français on peut dire, quelque chose qui s'est joué dans les chancelleries. Quelque chose qui se déroule entre le roi Balak et le prophète des nations, Bilam. Donc, a priori, on peut se demander comment ça a atterri dans la Torah. Alors, la Gemara, elle dit que Moshe Katav Sifro, Moshe Rabbeinu, il a écrit son livre, c'est-à-dire la Torah, et aussi Sifro Shel, ou Parashat Bilam. Là-bas, c'est appelé Parashat Bilam. Pas le Parashat Balak, mais la Parashat Bilam. Enfin bon, on aurait pu appeler ça aussi Parashat Bilam, mais ça s'appelle Balak parce que le premier mot non trivial qui est cité, comme dans toutes les parchiotes, c'est le mot Balak. Si on avait cité Bilam en premier, la Parashat serait appelée Bilam. Mais là, quand on en parle, on dit Sifro ve Parshat Bilam. Moshe l'a écrite. Ça veut dire qu'il l'a écrite. Pourquoi on nous dit ça tout à coup ici, sur Parshat Bilam? Parce qu'effectivement, Moshe Rabbeinu, dans toutes les. À part dans la Genèse, et le tout début du livre de Shemot, Moshe Rabbeinu était présent dans tout ce qui s'est passé. C'était toujours avec Moshe Rabbeinu. Et là, il se passe quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, Moshe Rabbeinu, il n'est pas au courant. Personne n'est au courant. C'est quoi? C'est des histoires qui concernent le clan d'Israël. C'est des complots contre Israël. Les deux comploteurs, c'est Balak et Bilam. Alors, la Gemara, elle dit, mais comment c'est possible? Est-ce que ça voudrait dire que la paracha de Bilam, elle n'a pas le même degré de Gdusha que le reste du Sefer Torah? Alors, Rashi va expliquer que, alors comme vous savez, en deux mots, quoi, le roi Balak, il est effrayé. Il a peur des Bnei Israël. On verra dans le détail. Donc, il cherche comment se défendre de cette peur qu'il a des Bnei Israël. Alors, son enquête, c'est quelle est la force des Bnei Israël? On lui dit, ils ont un chef qui a une force dans sa parole. Parole de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah, donc évidemment, c'est une force. Alors il a cherché quelqu'un qui lui aussi avait une force dans sa parole. Il y avait un type un bonhomme dans les environs qui avait la réputation d'avoir une parole très puissante. C'est Bilam. Alors il a envoyé des émissaires pour que Bilam vienne l'aider. Donc ça commence comme ça. Alors, il y a tout un épisode qui sont en fait les relations entre Bilam et Hachem. Puis ensuite, finalement, il arrive chez Balak, et Balak lui explique. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, en quelque sorte, ils vont essayer d'utiliser la parole de Bilam pour faire du mal à Israël, en fait. comment il peut faire du mal à Israël. En vérité, il y a toute une partie de la réputation de Bilaam qui est complètement surfaite. C'est-à-dire que c'est un truqueur, c'est un menteur, donc il se donne des pouvoirs qu'il n'a pas. Mais il a un certain pouvoir. Mais il n'a pas tous les pouvoirs qu'on raconte qu'il a. Et la vérité, c'est que Balak, il le sait. Il sait une partie de la vérité. Mais bon, il n'a pas trouvé mieux, donc voilà. Il prend Bilaam. De Bilaam, on sait... Je vous raconte l'histoire d'abord, on verra après dans le texte. De Bilaam, on sait comment il procédait. Il y a... La Gemara, elle explique que tous les jours, il y a un moment dans la journée où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Alors ça dure une nanoseconde, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, la colère divine. Et à ce moment-là, la colère divine, ça veut dire que si tu savais capter la colère divine, alors c'est comme si tu arrivais à capter la foudre et tu arrivais à la détourner, l'envoyer là où tu veux qu'elle aille. Donc, la force de Bilaam, c'est qu'il sait quand Hachem se met en colère. Alors, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il fait semblant que c'est sa parole qui maudit, qui affaiblit l'ennemi, alors qu'en réalité, ce n'est pas sa parole. C'est qu'il parle à un moment où il sait qu'Hachem est en colère. Donc là, en vérité, c'est la colère divine qui frappe, mais comme les gens ne savent pas qu'il y a cette colère divine, alors ça passe pour étant la puissance de la parole de Bilaam. C'est déjà pas mal de savoir quand Hachem se met en colère. Il y a une espèce de captation de cette colère divine. C'est comme s'il y avait une espèce de paratonnerre qui capte la foudre, quoi, qui attire la foudre. Ben lui, il attire, il sait comment attirer la colère divine, parce que quand tu sais quand elle vient, alors tu peux avoir un pouvoir. Alors Bilaam, il est engagé, à prix d'or d'ailleurs, il est engagé par Balak pour le Kalel et Israël, pour maudire Israël. Et Balak, en fait, il fait ça parce que il a peur d'Israël. Donc, pour affaiblir Israël, il a peur, il appelle Bilaam. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher comment faire tomber la foudre divine, on va le dire comme ça, sur Israël. Mais pour ce faire, il faut impérativement qu'on trouve une raison pour que cette colère tombe sur Israël. Donc, si vous voulez, il faut trouver un moment de conjonction, si vous voulez, entre Israël qui ne se conduit pas très bien, de façon critiquable, et la colère divine. À ce moment-là, on pourrait essayer de faire tomber la colère divine, la fureur divine, la foudre, en quelque sorte, sur le clan d'Israël qui, à ce moment-là, le mérite. Bon, alors, il faut trouver ce moment. Il faut trouver. Alors, ils vont chercher ce qu'on appelle un point de vue, comme un photographe qui chercherait le meilleur point de vue pour faire des photos du clan d'Israël. Ils vont donc tourner autour du camp d'Ebné Israël pour essayer de trouver trouver un éclairage et de quoi faire une photo qu'on pourrait en tout cas présenter comme négative contre le clan Israël. On sait très bien que c'est ce que font les photographes, c'est-à-dire qu'il s'agit de trouver un angle, un point de vue à partir duquel on pourra faire dire à la photo ce qu'on veut qu'elle dise. Alors ils vont tourner autour, mais ça ne va pas marcher. Alors c'est très étrange parce que quand ils vont tourner autour, à chaque fois Bilaam va demander à Balak d'apporter des korbanot pour Hachem. Ils vont à chaque fois construire les autels, apporter des korbanot l'Hachem. puis ensuite, il va y avoir un chazal qui va expliquer que, à cause des korbanot qu'il a amenés, et peut-être aussi des quelques pas qu'il a fait dans Balak va avoir un mérite. Vous comprenez, c'est étrange. Il apporte des korbanot à Hachem, a priori, pour qu'Hachem l'aide dans sa démarche. C'est quoi sa démarche? Essayer de détruire, si possible, ou au moins affaiblir, le peuple d'Hachem. Donc il demande à Hachem d'affaiblir le peuple d'Hachem. C'est une démarche qui peut nous paraître un peu folle, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu demandes à Hachem qu'il agisse contre son peuple? Si Hachem juge que le peuple mérite d'être puni, il n'a pas besoin que tu lui demandes. Et s'il juge qu'il ne doit pas être puni maintenant, ben tu peux toujours demander, a priori ça ne devrait pas marcher. Et d'une certaine manière, ça pourrait marcher. Seulement, ce qui va se passer, c'est que Hachem va faire en sorte qu'ils n'ont jamais trouvé la... Ils n'ont jamais pu prendre la bonne photo. Donc ça n'a jamais marché. Ça, c'est la fameuse démarche. Ah, il y avait Cam qui voulait bien. Excusez-moi. Merci. Voilà, donc ça va pas marcher, mais bon, il y a beaucoup de choses qu'on apprend ici. Entre autres, ce qui s'est passé, c'est que il est très ambigu ce Bilam. Parce que d'une part, quand les émissaires de Balak qui viennent l'engager, en fait, à ces émissaires-là, il leur dit, mais je ne pourrais rien faire hein, si Hachem n'est pas d'accord. Mais il pense qu'il arrivera malgré tout à obtenir l'accord d'Hachem. Il pense qu'il va peut-être pouvoir rouler Hachem ou quelque chose comme ça, très compliqué. Et qu'il obtiendra quand même, il arrivera à ses fins, il pense qu'il va y arriver. Mais alors, ce qui est le gros morceau, c'est que chaque fois qu'il est en position de dire quelque chose de négatif, la photo, ils l'ont pas trouvé, mais il veut quand même dire quelque chose sur le clan d'Israël de négatif, alors il se met à déclamer, et il donne des brachot incroyables, les plus belles brachot qu'on ait jamais reçues, que le clan d'Israël a jamais reçues, parce que Hachem a appliqué la procédure d'inversion. C'est-à-dire que tout le mal qu'il a voulu dire, Hachem l'a transformé en bien. Donc ça nous donne une idée du mal qu'il voulait donner, puisque c'est... Alors, pour aller jusqu'au bout, ces belles brachot qu'il a dites, elles ont toutes mal tourné avec le temps. Avec le temps, elles se sont de nouveau retournées contre le clan Israël. Sauf une. Une que vous connaissez. C'est celle dans laquelle il a dit « Ma tovu o'alecha Israël »« Quelles sont belles tes tentes Israël » qui est le verset qu'on dit quand on entre dans une synagogue. Alors voilà, quand on veut dire quelque chose de beau sur les synagogues, sur les lieux de prière des Bnei Israël qui se consacrent à prier à Hachem, on invoque, on fait usage d'une Klala que Hachem a retourné en bracha du camarade Bilam. Alors, il y a un petit problème, c'est qu'est-ce que c'est que cette puissance de Bilam? Qui c'est ce Bilam? La Gemara, elle dit qu'à la fin des temps, les nations, elles viendront, elles diront, Elles accuseront Hachem. Elles lui diront, bah, tu dis que le clan d'Israël, il s'est mieux débrouillé que nous, quoi. Mais évidemment, nous aussi, si tu nous avais donné un personnage comme Moshe, ah, nous aussi, on l'aurait suivi et on aurait été bien, quoi. Alors, pour les faire taire, Hachem leur a donné Bilam. Donc, il faut comprendre. Pour les faire taire, il faut donner un Bilam qui fasse le poids contre Moshe, parce qu'ici, on a mis n'importe quel faux petit prophète de rien du tout. Ils pourront toujours dire, oui, il nous a donné un nul, s'il nous avait donné. Et donc, puisque Hachem a choisi Bilam comme étant la réponse, une réponse valable, pour leur dire, voilà, je vous ai envoyé Bilam, regardez ce que ça a donné. Il faut qu'ils ne puissent pas dire, mais Bilam, il ne faisait pas le poids. Donc ça veut dire que Bilam est très grand. Alors quant à la question de savoir, mais quel est vraiment le statut de la paracha de Bilam, de Bilam ou Balak, quoi, puisque en fait, alors, il faut dire qu'en réalité, Hachem a inspiré donc Moshe Rabbeinu et il lui a dicté en quelque sorte cette paracha de Bilam. Et il y a dans ce que Bilam va dire, il y a plusieurs points très importants, en particulier tout un thème qui est le thème de l'unicité du clan Israël. La singularité absolue du clan Israël, le fait qu'Israël est seul parmi les nations. C'est un thème que même aujourd'hui, certains reprennent en disant « le monde entier est contre nous », etc. Alors, c'est construit d'une certaine manière sur ce que Bilam a dit, mais il l'a dit, enfin, tel que c'est sorti, de façon élogieuse pour le clan Israël. C'est-à-dire, il fait l'éloge du clan Israël qui est capable de solitude. Il est capable d'être seul parmi les nations. Voilà. Alors, Bilam va rater et il va être renvoyé par Balak. Alors lui qui en fait, c'est un pourri, hein, Bilam, on va voir. Et lui il voulait être couvert d'or et d'argent par Balak pour faire le job. Alors Balak il lui dit, écoute, t'auras rien parce que t'as pas fait le job. Alors, Bilam, quand il va quitter Balak, il va lui donner un conseil gratuit. Et il va lui dire, bon, finalement, si tu veux affaiblir les Bnei Israël, il faut leur faire quelque chose qui, aux yeux de leur Dieu, est inadmissible. Alors il lui a dit, ça va impliquer que vous allez faire une espèce de guerre et tu vas envoyer les princesses, tu vas prostituer les princesses. Et elles vont aller dans le camp d'Israël, elles vont dire aux Juifs, elles vont leur dire... Ils ont mis tout un cinéma, ils vont vendre des choses avec une vieille femme devant, va derrière, on va mieux te traiter, derrière il y aura les jeunes qu'on va prostituer, mais elles vont payer, elles vont demander comme paiement de leur service, elles vont demander que les Juifs se prosternent, ils vont sortir leur petite idole portative là, ils vont demander que les Juifs se prosternent devant leur idole. Si tu te prosternes devant mon idole, alors je serai à toi. Et évidemment, les Israël l'ont fait. Et puis il y a eu, sanctions gigantesques. Puis après, dans la foulée, en quelque sorte, il y a le fameux épisode de Pinchas. C'est-à-dire que les gens de la tribu de Shimon, quand il y a eu un fléau qui a frappé les Bnei Israël parce qu'ils étaient mal conduits, et les gens de la tribu de Shimon, ils ont dit à un de leurs chefs, qui s'appelait Zimri, ils ont dit, pourquoi tu restes à l'écart? Pourquoi tu ne viens pas nous défendre? Là, on est contre Moshe, quoi. Alors, pour les défendre, voilà ce qu'il a fait. Auparavant, il faut que je vous dise qu'il y avait dans les princesses qui ont été envoyées, il y avait la super princesse. Elle a dit, moi, je veux absolument le grand chef. Je veux pas moins que le grand chef. Je suis pas prête à aller avec n'importe qui. Je veux le grand chef. Alors, évidemment, elle l'a pas eu, mais elle a eu un chef dans la tribu de Shimon, ce fameux Zimri. Et donc, Zimri, il était avec cette princesse dans sa maison. Et les autres ont dit, mais toi, tu prends ton plaisir, et puis nous, on est en train de se faire massacrer et tout. Alors il est venu publiquement avoir un rapport avec cette princesse, et il a engagé un dialogue avec Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, est-ce que cette Midianite là, cette princesse Midianite, est-ce qu'elle m'est permise? Alors Moshe Rabbeinu lui dit, non, évidemment pas. Alors il a dit à Moshe, mais qui t'a permis ta Midianite à toi? Moshe Rabbeinu était bien marié avec une fille d'Yitro qui était Cohen Midian. Qui t'a permis ta Midianite à toi? Voilà, tout le monde connaît la réponse. La réponse, c'est que quand Moshe s'est marié avec la fille d'Yitro, on est avant Matan Torah. Et lui, maintenant, il est après Matan Torah. Donc, entre-temps, les Midianites sont devenus interdites, c'est les Goyotes. Avant, il n'y avait pas cette distinction. Et il y a une halakha qui dit que quand un juif publiquement a des rapports avec une non-juive, avec une araméenne ou avec... Alors, il y a une halakha qui s'appelle Kanaim Pogimbo. La halakha, c'est la suivante. C'est une halakha un peu compliquée, ça veut dire... Voilà, le type, il est en train de faire publiquement cet interdit, de transgresser publiquement cet interdit. Alors, la halakha, elle est que si tu demandes, est-ce que je peux faire quelque chose, je vais mettre fin à ça, je vais le tuer, etc., on te dira non, t'as pas le droit. Mais si tu es animé d'un feu sacré, disons, et que tu supportes pas ces choses-là, alors, et que tu embroches les deux au moment même où ils sont imbriqués l'un dans l'autre, alors tu risques ta peau, évidemment. Mais le tribunal ne te poursuivra pas. C'est-à-dire, Kanaïm, les jaloux, ceux qui sont jaloux pour Hachem, Pogimbo, ils ont le droit de le toucher. Bon, je vous dis, c'est des règles très précises. Voilà. Et Pinchas, qui est un petit-fils d'Aaron, mais qui n'est pas Cohen. Il n'est pas Cohen parce que quand Aaron a été nommé Cohen, alors il n'y avait que trois Cohenim à ce moment-là. Il y avait lui et les deux fils restants. Nazar et Itamar. J'ai perdu les deux, Nadav et Abihu. Et ces deux-là. Il n'y a que eux qui sont devenus Kohanim. Et ensuite, les enfants sont devenus Kohanim. Les enfants de ceux-là sont devenus Kohanim. Mais Pinchas, il était déjà né. D'accord? Et il n'a pas été comme il est né avant la nomination et qu'il n'a pas été nommé, ben il n'est pas devenu Cohen. Et Pinchas était quelque part comme un espèce d'adjoint de. Il était à côté de Moshe Rabbeinu quand ça s'est passé. Et Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas réagir. On verra pourquoi il n'a pas réagi. Alors Pinchas, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne nous as pas appris que dans ce cas-là, Kanaim Pogimbo. Alors Moshe Rabbeinu a dit, celui qui lit le message, il n'a qu'à l'appliquer. Je ne peux pas te dire, parce que si tu me demandes, la halakha qu'on dit non, fais pas. Et si tu ne demandes pas, et que tu prends le risque, parce que si Zimri s'était retourné quand Pinchas est venu pour l'embrocher, et qu'il ait tué Pinchas, Zimri était en légitime défense. Donc on n'avait rien à lui reprocher. Donc c'est ce digne de Kanaim Pogimbo, ça veut dire tu risques ta peau. Si ça boue tellement en toi, c'est tellement insupportable que tu es prêt à risquer ta vie pour le faire et que les conditions sont là, parce qu'il y a, bon, on verra après qu'il y a la paracha d'après, ça sera Pinchas. Et bon, alors je vais vous faire un scoop, hein, qui n'est pas dans cette paracha, c'est que Pinchas, ayant embroché Zimri et sa concubine et les ayant tués, donc, il a failli d'ailleurs être tué par tous les gens de la tribu de Shimon, parce que, bon, il a été protégé, et il a été nommé Cohen. C'est la seule personne qui a été nommée Cohen au milieu de sa vie, quoi, sauf à l'exception donc de Aaron et Lazar et Tamar, les deux fils, et ses deux fils. Et lui, il a reçu la Kehuna en partage pour lui et toute sa descendance. Désormais, il y a en quelque sorte deux sources, si on peut parler. En vérité, il est un petit-fils d'Aaron, donc c'est. Mais en réalité, il y a deux sources de la Kehuna. Il y a le triplé Aaron et Lazar et Tamar, et il y a Pinchas. La vérité, c'est que un Cohen qui tue, par exemple, comme Pinchas a tué Zimri, s'il avait été Cohen, il aurait été disqualifié comme Cohen. Un Cohen qui tue, même en légitime défense, il ne peut plus faire la avoda. Il est toujours Cohen, il reçoit toujours les matanotes, etc., mais il ne peut plus fonctionner au Mizbeach. Quelque sorte, c'est comme s'il y avait un risque de résonance entre la violence qu'il a commise en tuant, même en légitime défense, et la violence qu'on fait aux animaux quand on apporte un corban. Et la Torah, elle ne voulait pas de cette résonance. De même qu'elle ne voulait pas non plus d'un phénomène de résonance entre la violence faite aux animaux et la violence dont le misbéar, dont l'autel aurait été réminiscent si on avait taillé les pierres avec du fer. C'est pour ça que les pierres, on ne pouvait pas les tailler avec la pierre, avec du fer, avec l'épée, parce que c'est réminiscent de l'engin avec lequel on tue. Et la Torah, la Torah ne veut pas qu'il y ait ce phénomène de résonance. La résonance, c'est un phénomène très étrange. À ma connaissance, c'est le seul phénomène où on obtient un effet, en théorie, disons, en tout cas, un effet infini avec une structure finie. Parce qu'en réalité, quand on représente le Dirac, enfin la résonance, en théorie, c'est infini. Bon, alors concrètement, ça l'est jamais, mais c'est infini. L'effet est infini. Donc l'idée d'avoir un effet infini avec des trucs finis, on comprend très bien que ce soit très gênant.
Excusez-moi. Juste, quand il a été nommé Cohen,
après. Ah non ?
Il a été nommé Cohen après.
Oui, bah sinon, s'il avait été Cohen avant, il aurait été disqualifié comme Cohen. Donc ça, le paradoxe, quelque chose qui disqualifie un Cohen, d'accord, va le qualifier lui comme Cohen. Lui qui n'est pas Cohen, il devient qualifié comme Cohen, lui et toute sa descendance, en faisant un acte qui, s'il avait déjà été Cohen, l'aurait disqualifié. Moshe Rabbeinu, il va garder une dent contre la tribu de Shimon. Quand Moshe Rabbeinu va, à la fin de sa vie, donner des brachot à toutes les tribus, il ne bénira pas la tribu de Shimon. Et il ne donnera pas, il n'annoncera pas de territoire pour la tribu de Shimon. C'est-à-dire, dans le partage de la terre, il n'était pas prévu que Shimon ait une part. C'est Yehuda qui va lui donner une part de sa terre. Finalement, Shimon aura du terrain, une terre, mais c'est Yehuda qui le lui a donné. Moshe ne lui a pas donné. En réalité, cette violence, en fait, ou cette de la tribu de Shimon, on a tendance à la mettre en rapport avec quelque chose qui s'est fait au tout début. Vous savez que quand Dina, la fille de Jacob, a été enlevée et violée, Shimon et Lévi ont massacré complètement toute la ville de Shrem. Et au point que Jacob a venu et dit, moi je ne veux rien avoir à faire avec vous. Dans les brachot, tu dis, moi je n'ai rien à faire avec Shimon et Lévi. Au titre de, on ne va pas laisser notre fille, notre sœur se faire violer sans que... Alors Jacob lui dit, mais il leur a dit, mais vous êtes complètement fous. On va avoir toute la population de tous les pays alentours contre nous. Bon, il ne s'est rien passé. Mais il y a cette violence et cette espèce de transgression de principe quand même des valeurs de Yaakov par Shimon et Lévi. Alors la tribu de Lévi, elle s'est rattrapée au moment du veau d'or. C'est la tribu qui n'a pas fait le veau d'or. C'est la tribu qui, quand Moshe Rabbeinu a dit à l'après « Mil Hashem Elai » que tous ceux qui sont pour Hashem viennent vers moi, toute la tribu de Lévi est venue. Et du coup, les Lévites ont eu un statut très avancé dans le clan d'Israël, puisque ils sont, enfin, c'est une partie de la tribu de Lévi qui donne les Kohanim, et le reste de la tribu de Lévi qui sont les Lévites, et c'est les Kohanim et les Lévites qui font fonctionner le Mishkan, puis ensuite le Beth Amikdash, et encore aujourd'hui. Mais par contre, Shimon, qui s'était disqualifié en massacrant, en tuant des gens qu'il n'aurait peut-être pas fallu tuer, en tout cas, en théorie. Maintenant, il fait encore une faute. Bon, on ne sait pas si c'est plus lui personnellement, c'est la tribu de Shimon qui fait cette faute qui touche à Gilui Arayot, elle a des rapports avec des femmes interdites. Donc d'un côté, il y a le meurtre, de l'autre côté, il y a les femmes interdites. Alors la vérité, c'est qu'elles sont pas interdites, mais la Torah vraiment comme c'est des étrangères, c'est pas la même chose, c'est pas vraiment l'interdit dans toute sa force. Enfin, c'est un interdit de ce type-là, et donc Moshe Rabbeinu ne les récupère pas. C'est intéressant de voir une chose comme ça. Moshe Rabbeinu ne les a pas récupérés. Il n'aura pas pardonné, il n'a pas donné de terre, c'est très étrange. Parce que c'est pas qu'il a eu un ordre d'Hachem, ne leur donne pas. Moshe Rabbeinu, de sa propre initiative, semble-t-il, enfin c'est ce que... J'ai encore jamais vu le contraire, mais il y a peut-être des textes qui disent le contraire, mais à ma connaissance, c'est de sa propre initiative qu'il a décidé de les sanctionner. Donc voilà cette paracha, je vous l'ai un peu décrite. Elle est tout à fait spéciale, comme vous voyez, elle a un statut à part.
Thank you.
prosterner devant lui.
Oui, alors ça, c'est cette chose-là. Hein. Oui, bon, on l'aura. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que si quelqu'un se prosterne, disons, il adore d'une manière ou d'une autre, il fait ce qu'il faut pour que ça soit considéré comme le culte d'une idole, mais qu'il le fait, mais ahava o meira. C'est-à-dire, il le fait par amour pour une femme. La femme lui dit, écoute, je veux me marier avec toi, ou, etc. Il l'aime, il lui dit, oui, mais prosterne-toi. S'il se prosterne, il ne faut pas le faire, mais s'il se prosterne, ce n'est pas considéré comme de l'idolâtrie. Parce qu'il ne l'a pas fait pour l'idole, il l'a fait pour la femme. De la même manière, en fait, c'est ça qui est curieux, c'est que si quelqu'un se prosterne par crainte, si on lui dit, écoute, si tu ne te prosternes pas, je te flingue, c'est pas Avodah Zarah. C'est pas non plus l'idolâtrie. Et pourtant, il y a une mitzvah de faire un Kiddush Hashem. C'est très étrange, parce que le Kiddush Hashem se fait donc une situation où en réalité, il n'est pas du tout idolâtre. D'accord ? S'il le fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est prosterné, mais ira. Ira, ça va. On comprend très bien. Par amour, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Mais par crainte, évidemment, que quand tu fais quelque chose par crainte, on ne peut pas dire que tu t'es vraiment, t'as reconnu l'idole, etc.
Même si cette prosternation se fait, voilà, en petit comité, deux, trois personnes, l'un qui est...
Non, là, le Kiddush Hashem, enfin, l'obligation de faire Kiddush Hashem, c'est seulement s'il y a 10 hommes juifs, cachers, qui sont présents. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de Kiddush Hashem. Parce que là, c'est sûr que tu peux te prosterner. Mais pourquoi, enfin, tout à coup, il y a une dimension de Kiddush Hashem, enfin, de profanation du nom divin, par quelqu'un qui se prosterne alors qu'en vérité, ça n'a aucune signification.
Toi, il y a une mitzvah de se laisser tuer plutôt que...
Justement, c'est ce que je te dis. Il y a la mitzvah de se laisser tuer, donc de faire un Kiddush Hashem. Ah. Et certains vont jusqu'à dire que si tu le fais pas, c'est un Kiddush Hashem, parce que ça, c'est pas évident. Personne ne dit que quand tu ne fais pas un Kiddush Hashem, ça fait un Kiddush Hashem. Ce n'est pas du tout la même chose, a priori. C'est neutre. C'est ça.
Yavor,
Yavor. Mais qu'est-ce qu'on lui demande d'être au vert? Il n'est pas vraiment au vert. C'est paradoxal, si vous voulez, parce que y a la mitzvah de Kiddush Hashem qui se fait comme ça, en ne transgressant pas, en se laissant plutôt tuer. Pourquoi ? Pour ne pas faire quelque chose qui, en soi, n'est pas du tout un acte d'idolâtrie. Alors, parce que ça se fait devant 10 personnes et que, bon, à la limite, les 10 juifs en question, ils savent pertinemment que le type, on lui a mis le pistolet devant sur la tempe. Donc, ils savent très bien que... Même si on n'avait pas le chidouche que... Le chidouche, c'est que même dans l'idolâtrie, c'est pas considéré comme de l'idolâtrie. Parce que, honest rachman patré, c'est une règle générale. Que quand quelqu'un agit sous la contrainte, la Torah lui demande pas des comptes. Et on aurait pu penser que l'idolâtrie, c'est tellement grave que même qu'il faut pas le faire même sous la contrainte. C'est vrai, il faut pas le faire même sous la contrainte. Mais c'est marqué que celui qui se prosterne, mais ira, par crainte, il n'a pas transgressé l'interdit d'idolâtrie. C'est un peu compliqué. C'est surtout très compliqué pour moi, je n'y comprends rien. Pardon ? Non, mais de toute façon, maintenant, quelqu'un qui ne se laisse pas tuer, il n'a pas. Tout le monde est d'accord qu'il n'a pas. Il n'a pas pratiqué l'idolâtrie. Il a surtout, on pourrait dire, il a raté une occasion de faire un Kiddush Hashem. Mais rater une mitzvah d'assé, bon, si tu ne manges pas de la matzah le soir de Pessah, tu as aussi raté la mitzvah de manger de la matzah.
Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait être du style, il y a 10 juifs,
ouais.
Voilà. Donc ils assistent à la scène, et il y en a qu'un qui va, malheureusement...
Non, on fait 10 juifs en dehors de lui.
Oui.
Ils sont 11. Il y en a un qui...
Oui. Il y en a un. Par contre, les 10 juifs, ils ne sont pas réellement, je dirais, inquiétés de mort. On ne va pas ensuite passer à...
Non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout inquiétés.
Non, mais je veux dire comme ça. Et est-ce qu'ici, il n'y a pas... on peut éviter peut-être le risque que, sans doute, ça devienne des témoins et que cela soit diffusé au plus grand nombre et au goyim et que...
Non, vous avez très bien, si vous avez peut-être raison.
Ces juifs, bah tiens, voilà, tu vois, regarde, voilà, et quelqu'un, dès qu'il y a quelqu'un qui les met un peu sous pression, bah c'est fini.
Mais surtout que la mitzvot, c'est comme ça. Si on oblige quelqu'un à être mechalel le Shabbat, il n'a pas le droit de se laisser tuer. Il est obligé d'être mechalel le Shabbat. Oui. Pourtant, le Shabbat, c'est vachement important. Hein. Si quelqu'un en lui met, si vous comprenez mieux, si on met le pistolet devant sur la tempe de quelqu'un, on lui dit « mange à Kippour », il faut manger. Il n'a pas le droit de se laisser tuer. Donc, il n'y a que trois fautes sur lesquelles on te dit qu'il y a une mitzvah de Kiddush Hashem, il vaut mieux Yehareg velo Yavor, qu'il soit tué et qu'il ne transgresse pas. Le meurtre, on dit à quelqu'un, écoute, tue ton copain, sinon on te tue. Bon, alors là, l'Agmara, elle dit, il faut te laisser tuer parce que qui dit que ton sang, il n'est plus rouge que le sien. Donc là, bon, ça on comprend. Encore que même s'il ne se laisse pas tuer et qu'il tue, il n'est pas, c'est pas un assassin, il l'a tué sous la contrainte. Oui, il ne va pas être accusé de meurtre. Bon, il n'aura peut-être pas une très bonne conscience, ce que vous voulez. Il n'a pas eu le courage. Tout le monde n'a pas le courage de se laisser tuer. Bon.
Donc, il peut y avoir quelque chose de plus grave que la profanation du Shabbat.
Oui, mais le meurtre, a priori, c'est, par exemple, c'est sanctionné de la même manière que... pas sanctionné mieux plus que Shabbat, c'est une peine de mort, c'est tout.
Oui, mais dans le fait, donc, par contre, de se laisser...
Non, alors c'est ça, il n'y a pas de... Sauf si c'est une question de... Sauf si c'est une période où on oblige tous les gens à se convertir. À ce moment-là, on te dit, tu n'as même pas le droit de changer la couleur de tes lacets. Bon, si on dit que les Juifs, ils doivent porter des lacets... jaune et qui seront reconnus comme tels, t'as pas le droit de mettre des lacets bleus rouges.
Il semblerait comme ça, hein, c'était un parallèle, directement une comparaison, que dès qu'on touche à la. Donc au kavod, d'une certaine façon de la chèvre, et comment le toucher plus qu'en se postérant devant une idole. Eh bien, ça y est, il faut laisser sa vie.
Mais c'est seulement, c'est pas vrai, parce que s'il était tout, s'il n'y avait pas 10 personnes, il va se prosterner tranquille. Oui. Rien, il va rien se passer. Oui, mais... Donc on touche exactement au Kavod Hashem. Alors oui, il n'y a pas 10 témoins, donc ça donne une dimension particulière quand il y a 10 juifs cachers qui l'ont vu.
J'essaie de comprendre pourquoi, justement, il y a quand même là, ici, on le voit bien, vous-même. Une distinction qui est faite entre, par exemple, le viol de Shabbat et l'idolâtrie. Rien que ici, un parallèle qui n'est pas une comparaison, encore une fois, mais lorsque les Hébreux font le veau d'or, donc il n'y a que la tribu de Lévi qui est pour. Quelque part, et on leur demande dans ces cas-là d'aller tout de suite tuer
les autres.
Oui, mais même que c'est son fils, même que c'est sa femme, etc. Quoi. Je veux dire, oui. Il n'y a pas de. Donc on a l'impression, on voit la gravité terrible d'imaginer d'aller mettre le glaive dans le cœur de votre fils. Il a fait la Avodah Zara, il était avec. On a l'impression quand même que là, il y a comme si une borne que. Il y a un
franchissable,
si on tombe là-dedans,
c'est fini. Oui, mais là-bas, ils ne sont pas sous la contrainte. Ce dont nous parlons, c'est toujours agir sous la contrainte. On lui a mis un pistolet sur la tempe. Ils n'ont pas fait le veau d'or avec une contrainte. Bon, on va pas passer la soirée là-dessus, parce que je n'ai malheureusement pas de bonne réponse à vous donner. Je ne sais pas. C'est pas vrai. En fait, la cause Bibatsur, là, celle qui s'est donnée au prince de Zimri, le prince de la tribu de Shimon, c'était la fille de Balak elle-même. Parce qu'il y avait des filles de Moab et des filles de Midian. Elle était une Midianite. Parce qu'en fait, Balak, il est roi de Moab, mais en vérité, il est issu de Midian. Ils ont un problème. C'est lui qui est devenu roi. Lui, un Midianite qui est devenu roi à Moab. Il est de Moab, mais en fait, il est de Midian. C'est ça qu'il a dit il a pu dire à Moshe qui t'a permis ta Midianite à toi. Mais dans Moab, on pourrait dire, c'est spécial, les filles de Moab, on sait très bien que, bon, voilà. On sait que les gens de Moab, on les accepte pas dans le clan Israël. Et bon, de toute manière, ça n'a jamais concerné les filles, hein, par la suite. Parce que la preuve, c'est Ruth. Ruth, elle est de Moab. Non, mais celle-là, elle était de Midian, et sur Midian, il n'y a rien de spécial, c'est pas des filles de débauche, en quelque sorte, comme les filles de Moab. Alors, je vous ai dit, il y a ce caractère absolument extraordinaire des prophéties, des paroles de Bilam. Mais le Zohar, il explique que tout celui qui dit que les récits qui sont faits ici s'adressent à l'époque où ça a été dit, c'est un ignorant. Parce que cette paracha, elle contient des vérités qui sont, dit le Zohar, à attribuer au temps futur. Et que Moshe Rabbeinu s'était forcé de le faire paraître discrètement dans le texte. Comme ça, dit le Zohar, qu'il faut comprendre la conversation entre Balak et Bilam. Donc je vous rappelle, Balak et Bilam, c'est une conversation à laquelle Moshe Rabbeinu n'a pas été convié. D'accord, ça c'est ce que j'appelle des trucs qui se déroulent dans les chancelleries, quoi. Il y a un complot. C'est un complot contre Israël. Et leur conversation, c'est la suivante. Au temps de la génération de la tour de Babel, les gens avaient essayé vainement de mélanger aussi le langage de ce peuple. C'est-à-dire, ils ont essayé d'essayer de fourvoyer les Bnei Israël. Maintenant, nous pouvons à nous deux y réussir. Toi qui t'appelles Bilam et moi qui m'appelle Balak, parce que l'union de nos deux noms donne Bilbel. Balak, Bilam, Bilbel. Bilbel, c'est quoi? C'est Babel. C'est beaucoup qui a été me Balbel. C'est ce fameux mélange des langues. Donc le balbel, c'est mélangé, c'est, on dit en hébreu aujourd'hui, le balbel aussi, il essaie de m'embrouiller. Quoi. Donc toi, tu es maître de la parole, dit Balak à Bilam. Ce que tu bénis est béni, ce que tu maudis est maudit. Il t'appartient de maudire ce peuple de juifs. Quant à la réalisation de ta parole dans les actes, c'est moi qui m'en charge. Je suis maître des magies. C'est un grand magicien, Balak. À nous deux, on peut obtenir ce que les anciens n'ont pas obtenu. C'est-à-dire, le Zohar, il présente les choses comme si on retrouvait là un projet de la tour de Babel, quoi. Le projet de la révolte contre Hachem la révolte au tout début de l'histoire, quoi, au temps de Nimrod, au temps d'Abraham Avinu. Alors c'est marqué dans le Passouk, Balak ben Tzippor, Balak, le fils de Tzippor, Vayar Balak ben Tzippor, et kol asher asa Israël la emori. Il a vu tout ce qu'Hachem a fait au peuple des Émoréens. Il les a anéantis finalement, oui. Alors, le Hazal font remarquer, Zohar font remarquer aussi, que c'est pas marqué qu'il a entendu ce que, comme c'est marqué chez Yitro, il a entendu ce qu'Hachem avait fait, les guerres, que. Mais ici c'est marqué qu'il a vu. Comment il a pu voir Balak, ce qui s'est fait très loin de chez lui? Il a pu voir. Qu'il en entende le récit, on comprend, mais qu'il voit. Le mot tzipor, ça veut dire oiseau. Et le Zohar dit, qu'est-ce que Balak a bien pu voir? Il a vu les mouvements de tzipor, de l'oiseau qui était son maître. C'est-à-dire Balak était un grand magicien, le plus grand magicien de son époque. Et c'était un adepte d'un oiseau qui s'appelait Yadoua, dont le nom est parenté avec Idoni. C'est une sorte de magie qui est interdite. On verra dans le Sefer Dvarim, on parle de l'interdit de procéder à la magie du type Idoni. Le Ramban, là-bas sur place, il va expliquer ce que c'est. Il a vu ce qu'Israël avait fait aux Émoréens et il se fie en toutes circonstances à ce fameux oiseau. Il a vu ce que les bénis Israël ont fait aux Émoréens. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Le territoire que Israël avait conquis, pour Balak, c'est celui que les Amoréens avaient rempli, avaient peuplé. Et il a compris, Balak, que ce qui était en train de se réaliser là, c'est ce qu'Hachem avait dit à Abraham Avinu. Il lui a dit, et la quatrième génération viendra ici, viendra en Eretz Israël, parce que je ne peux pas les amener maintenant, parce que la faute des Amoréens n'est pas encore complète. Vous savez, à Kadosh Baruch Hu, il attend que la coupe soit pleine pour châtier les goïms. Alors que les Bnei Israël, ils sont châtiés au coup à chaque fois qu'ils font une faute. Hachem ne laisse pas la coupe se remplir. Tout de suite, on est châtié. Mais c'est châtié tout de suite, c'est un acte d'amour, en fait, de ne pas nous laisser nous enfoncer. Avec les autres, ils leur laissent du délai. Et dans ce cas-là, le chemin vers Canaan, qui est ce que Hachem avait promis à Abraham, est ouvert. Et donc, ça allait passer chez lui, quoi.
Et il ne savait pas qu'on ne pouvait pas l'attaquer.
Il ne savait pas qu'on ne pouvait pas. Pourquoi il aurait su? Il ne sait pas. Il ne sait rien du tout. Il ne sait pas. Alors, le peuple de Balak, le peuple de Moab, avait peur d'Ebné Israël. Semble-t-il, comme Israël ne pouvait pas les attaquer, comme dit Ilan, ils auraient dû ne pas avoir peur. Mais bon, ils avaient quand même. On peut penser qu'ils le savaient, mais ils avaient peur quand même. Quoi. C'est ce que Rashi dit. Hachem ne leur a interdit envers Moab que la guerre. Mais ils avaient le droit de leur faire peur. Ils avaient le droit d'apparaître en armes. Et c'est pour ça que le Passouk dit ici, Moab a eu peur devant le peuple parce qu'il prenait du butin et les pillait. Mais chez les fils d'Amon, les Ammonéens, là, Amon c'est marqué, ne les provoque pas, c'est marqué, Amon et Moab, on n'a pas le droit de les provoquer. C'est les descendants des filles des fils de Lot. Les filles de Lot, pardon. Donc, les gens de Moab, ils ont dit aux gens de Midian, cette multitude, c'est venu Israël, là, ils les voient comme une multitude. C'est, ils nous ont pris pour des Chinois, quoi. Ils auront fourragé tous les alentours. Donc, il n'y a pas de guerre ouverte. Ils ne demandent pas la permission de traverser le pays. Ils ont très 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 peur. Les gens de Moab, le Ramban, il dit que les gens de Moab étaient très très peu nombreux. Ils avaient des plaines désertiques, en fait. C'est des nomades, en fait. Et donc il n'y avait pas de ville, sauf une ville. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement peur. Et donc, ils sont. Le texte est étrange, le texte dit ils sont dégoûtés à cause des Bnei Israël. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus envie de vivre. En effet, les gens de Moab avaient essuyé une défaite énorme. Ils ont perdu la moitié du nord du royaume dans la bataille contre Sichon, le fameux géant. Et donc, ils voyaient sans aucune défense contre les Bnei Israël. Et donc, leur idée, ça a été de s'adresser à un pays lointain. Midian, c'est loin de Moab. Et ils se sont dit, pourquoi ils sont allés chercher chez Midian? Parce qu'ils ont fait une enquête. Ils sont allés voir, pour eux, Moshe, ils le connaissent comme étant issu de Midian, son beau-père c'est Yitro. Alors il se dit, bon, peut-être il y a un secret à chercher à Midian. Et quoi, ils ont fait ce que je vous ai raconté au début, puisqu'ils ont un homme très doué qui vient de Midian, nous aussi, on va le reposer. Ce Bilam. Qui leur ont conseillé de s'adresser à Bilam. Alors ils envoient des messagers, comme on a dit, ils envoient des messagers et. Et alors, il y a cette chose étrange, c'est que ils viennent et ils disent à Balak, maudis-moi ce peuple. Le Hirsch, il explique, il dit que Bilam est entouré de tous les mythes de l'Orient. Et il apparaît comme un véritable professionnel de l'art prophétique. D'ailleurs, tout le monde antique, aussi bien les Grecs que les Romains, les peuples de l'Orient, croient en l'efficacité des bénédictions et des malédictions prononcées par les hommes en face, contre leurs amis ou leurs ennemis. Et en particulier, il dit, dans le bassin assyro-babylonien, c'était enraciné la croyance en la puissance de certains hommes-démons qui pouvaient modifier la décision des dieux et assurer aussi bien la prospérité et le bonheur des hommes que le contraire. C'est des vrais sorciers parmi lesquels il faut ranger Bilam. Tout en disant que Bilam était de loin plus intelligent que la plupart de ceux qui faisaient appel à ses services. Il connaissait très bien sa propre impuissance, avait une notion très exacte d'Hachem et de son pouvoir. C'est ce que dit Hirsch. Alors il dit, Balak lui a dit, celui que tu bénis est béni. La question qu'on peut poser, c'est, Balak il avait une autre solution, n'est-ce pas? Au lieu de maudire Israël, il aurait dû demander à Bilam de le bénir. Il aurait dû demander à Bilam, puisque celui que tu bénis est béni. Bénis-moi. Comme ça, je serai plus fort que les bénis Israël. Pourquoi il n'a pas utilisé ça? C'est même plus facile que d'aller trouver la faille chez les bénis Israël. Bénis-nous, c'est tout, terminé. L'affaire était dans le sac, non? Mais Balak, il demande seulement à Bilam d'aller maudire Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, seules les paroles de malédiction qu'il avait prononcées jusqu'alors sur Moab, etc., donnaient un résultat effectif. Pour la raison que je vous ai dite, parce qu'il savait quand la colère d'Hachem se déclenchait, est-ce qu'il savait? Il savait orienter en quelque sorte, faire tomber la foudre là où elle devait tomber. Ça, il savait faire, mais sa parole n'avait aucun... Il n'avait aucun pouvoir, donc il n'avait aucun pouvoir positif, puisque tout était construit sur la déviation de la colère divine. Il n'y a que ça qu'il savait faire. Alors ils viennent chez lui et il leur dit « Restez ici cette nuit ». Alors Rashi explique qu'il y avait du roi HaKodesh chez Bilam. Hachem l'inspirait vraiment. Il fallait, pour qu'il puisse être comparé à Moshe Rabbeinu, il fallait quand même lui donner un sacré coup de pouce. Mais il n'a le roi HaKodesh que pendant la nuit. Et on voit très bien que chez les prophètes des autres nations, chez Lavan, etc., ils ne reçoivent des paroles divines que pendant la nuit. Et donc Bilam explique qu'Hachem n'a pas l'habitude de lui parler pendant la journée. Et alors, il se passe une chose étrange. Hachem dit à Bilam, pendant la nuit, il lui dit, mais qui sont ces hommes chez toi? Le Rashi, il dit, il faut entendre ici ce qui sont ces hommes chez toi, hein, de la même manière qu'il faut entendre la question qu'Hachem avait posée à Adam Arishon. Il lui a dit, où es-tu? Et tous les deux, ils sont tombés dans le piège. Ils ont pensé que puisqu'Hachem m'interroge, c'est qu'il ne sait pas. Alors Adam Arishon dit, je suis là. Même si Hachem ne savait pas où il était. Et Bilam aussi. Il commence à expliquer, ces gens-là, ils sont venus de la part de Balak, etc. Alors que, quel était le... Pourquoi est-ce qu'Hachem lui parle de cette manière-là? Rashi dit que Hachem voulait induire Bilam en erreur. Donc il a laissé la possibilité à Bilam de penser qu'Hachem ne savait pas tout. Puisqu'il demande qui sont ces gens, c'est qu'il ne sait pas. Et donc il ne sait pas tout. Donc Bilam se dit, s'il ne sait pas tout, alors j'ai peut-être une possibilité d'arriver à mes fins. Rashi dit une drôle de chose, il dit des choses, mais ce qui est plus étrange, c'est ce que dit le Zohar. Le Zohar dit que Balak, en réalité, c'était un des petits-fils de Yitro. Et que Yitro s'appelle aussi Tzipor, l'oiseau. Et il a nommé sa fille Tzipora, aussi l'oiseau. Donc Balak, c'est le seul de la famille. Vous savez, quand Yitro a été impressionné, et il est reparti chez lui pour convertir toute sa famille. Le seul qui ne s'est pas converti, c'est justement Balak. Il est resté idolâtre. Maintenant, par ailleurs, il est en fait, Balak, un ancêtre de David Hameler. Alors Hachem lui a dit, tu n'y vas pas. Il dit, les gens viennent me chercher. Tu n'y vas pas. Alors, Rashi, vous avez le Rashi devant vous, Rashi dit que Bilam a dit, mais ok, alors je vais les maudire d'ici. Je vais maudire les Bnei Israël d'ici. Hachem lui a dit, n'y va pas. Il a dit, ok, je peux faire du travail à distance. Hachem lui a dit, tu ne maudiras pas ce peuple. Alors Bilam a dit, ok, alors je veux les bénir. Alors Hachem lui a dit, ils n'ont pas besoin de ta bénédiction, ils sont bénis en principe, déjà, et à la limite, les bénédictions de Bilam, il vaut mieux s'en préserver. Alors le matin, il dit aux gens, il dit, désolé, je ne peux pas. Hachem ne m'a pas permis de... Je ne m'en ai pas permis, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il est obligé d'avouer qu'il dépend de quelqu'un d'autre et qu'il dit tout de suite qu'il ne pourra pas annuler les brachot que les avot ont reçus d'Hachem. Alors il y a une question qui est posée, c'est est-ce que Bilam était un magicien ou est-ce qu'il était un prophète? Alors le Midrash Rabba, il dit qu'il était d'abord interprète de rêves, ensuite magicien, puis ensuite il a eu voir HaKodesh et il est devenu prophète. Et la Gemara dans Sanhedrin, dans le contraire. La Gemara dans Sanhedrin, il était prophète et ensuite il est tombé dans la magie. Le Ramban, il analyse le degré de prophétie de Bilam. Parce que, comme vous savez, c'est marqué dans la Torah, hein, dans le Sefer Dvarim, Lokam beYisrael, que Moshe, il ne s'est pas levé de prophète en Israël comparable à Moshe Rabbeinu. Et la dracha, c'est, à partir de ce verset, en Israël, il n'y en avait pas. Mais il s'en leva parmi les autres peuples. Et le Midrash Rabba dit que, d'une certaine manière, la prophétie de Moshe Rabbeinu était inférieure à celle de Bilam. Parce que Moshe Rabbeinu ne savait pas ce qu'Hachem allait lui révéler. Et que Bilam le savait exactement. Moshe ne savait pas à quelle heure il allait parler avec Hachem. Bilam le savait. Et finalement, Moshe se tenait debout quand il a reçu la révélation, et Bilam à genoux. Donc, il dit, ça ressemble au boucher d'un roi qui sait exactement combien le roi peut dépenser, tandis que le roi lui fait confiance. Donc, le Ramban, il explique les trois points en disant, Moshe ne savait pas de quelle mitzvah Hachem allait lui parler. Donc il était prêt à chaque instant, pour quel que soit le contenu de ce que Hachem allait lui révéler. Et Bilam, il avait son intuition, il savait que en pensant à un certain sujet, il allait en quelque sorte attirer la parole divine sur ce sujet. C'est pour ça qu'il peut dire qu'il est celui qui écoute les paroles d'Hachem. Il écoute, il se met à l'écoute, il sait quand il va parler. Moshe ne savait pas l'heure à laquelle Hachem allait lui parler, donc il était prêt à chaque instant. Et Bilam s'attendait à entendre la parole d'Hachem à l'heure qu'il choisissait. C'était probablement l'heure de la colère divine, située aux trois premières heures de la journée, comme la Gemara le dit. Et la troisième chose, cette histoire de il recevait la parole divine que sur ses genoux. Les Mekoubalim, ils ajoutent que dans le Zohar, on donne l'idée que la parole divine, elle émane des deux bras, le côté droit et le côté gauche. Le côté droit qui est le côté de la Kdusha, et le côté gauche qui est le côté de l'impureté, de la Touma. Le premier, donc le côté droit, c'est celui dont les Bnei Israël se servent pour connaître la vérité, l'avenir, la bénédiction. Et le second, c'est celui dont se servent les peuples, qui se meuvent dans les sciences occultes, magiques, et la nécromancie, la sorcellerie, etc. Ils peuvent en parler, réussir, mais ils ne se rendent pas compte de la véritable interprétation. Et parfois, l'un de leurs prophètes, comme Bilam, reçoit Ruach HaKodesh, qui est à la tête des deux bras. Il reçoit du Ruach HaKodesh qui est à la source des deux bras, à l'origine des deux bras. Pourquoi? Parce que c'est pour Israël qu'il se révèle à eux, puisque pour que les Umot HaOlam ne puissent pas dire que Israël n'a aucun mérite particulier. Parce que nous, si on avait eu la chose, on aurait peut-être même fait mieux qu'eux. Alors, la question c'est, alors pourquoi il n'a pas réussi, Bilam? Parce que la tendance à la magie chez lui, elle était plus grande que la confiance en Hachem. Et on voit qu'il va mourir, à 33 ans, il va mourir comme magicien. Dans le livre de Josué, de Joshua, on dit qu'il meurt comme magicien. Et donc, on va s'arrêter là.